Parce que Dieu a beaucoup parlé par rapport à la délivrance et Dieu a beaucoup parlé par rapport au fait qu'il voulait nous décharger de nos fardeaux, nous décharger des choses lourdes qu'on porte dans nos vies. Et ce matin, en fait, je voulais vraiment encore vous interpeller sur ça, d'ouvrir vraiment vos grands, vos cœurs par rapport à la délivrance que Dieu est en train de faire au sein de l'Église, parmi les membres de l'Église, parce que Dieu est un Dieu de délivrance et Dieu, en fait, n'a pas dit son dernier mot dans ce qui se passe dans nos vies. Et Dieu, il a vraiment beaucoup de choses à nous donner, il a vraiment des courses, il nous donne des chemins, il veut vraiment alléger qui nous sommes pour courir vite et pour rentrer dans les choses nouvelles qu'il veut donner dans l'Église et pour chacune de nos vies. Et j'avais vraiment à cœur de prendre Ésaïe 61 et verset 10, et vraiment que pendant la prédication, vos yeux puissent être fixés sur vraiment la délivrance que Dieu peut encore accorder ce matin, aujourd'hui. Et donc, à compter du verset 10, donc dans Ésaïe 61, verset 10, il est dit: Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et alors soyez convaincus, ayez la certitude dans vos vies que Dieu va vous délivrer ce matin, que Dieu va faire encore une œuvre de délivrance. Et ce matin, j'aimerais aborder justement la délivrance par rapport à la honte et à l'opprobre qu'on peut avoir dans nos vies. Et j'aimerais prendre avec vous le passage de Josué, donc c'est Josué chapitre 5, verset 9. Et donc là, en fait, Josué, l'Éternel va parler à Josué, il va dire: Aujourd'hui, j'ai relevé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Donc je vais vous rappeler un peu le contexte, en fait, pourquoi est-ce qu'on a ce passage-là dans la Bible de l'Éternel qui parle à Josué ainsi. Mais tout d'abord aussi par rapport à différentes versions. Donc là, c'est dit que aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous, pardon, l'opprobre de l'Égypte. Mais on a aussi par exemple la version Summer qui dit: j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte, ou encore j'ai enlevé de vous la honte que vous avez rapportée d'Égypte. Et donc il faut savoir que le peuple d'Israël est resté 400 ans en Égypte. Donc ça a commencé avec Jacob, Joseph était en Égypte, il y a eu une famine et Jacob et sa famille a dû se retrouver en Égypte parce que là en fait il y avait la bénédiction. Joseph était de haut placé et tout ce qu'il faisait bénissait le peuple égyptien. Et donc la famille en fait de Jacob a dû se réfugier en Égypte. Le problème en fait c'est que ils sont arrivés en Égypte, etc., ils avaient vraiment la faveur des Égyptiens parce qu'il y avait Joseph qui était là. Et il y avait vraiment la main de Dieu. Mais il y a un temps donné, en fait, où toute cette génération-là, de Jacob, Joseph, des fils, etc., de ses frères, en fait, ça s'est effacé. Et le pharaon qui a été mis en place en Égypte ne connaissait pas, en fait, Joseph, ne connaissait pas, n'avait pas entendu ce qui s'était passé, et c'était pas connu de lui, en fait, tout ce que les Israéliens, tout ce que les Juifs avaient pu apporter de bon, dans leur pays. Et le pharaon, en fait, va commencer à avoir vraiment une dent par rapport aux Juifs, et d'autant plus parce qu'ils sont très féconds, et donc en fait, ils se multiplient énormément. Ils se multiplient, et en fait, Pharaon a peur de la puissance qu'ils commencent à avoir et du nombre qu'ils sont, parce qu'ils commencent à être plus nombreux que les Égyptiens eux-mêmes. Et ce qui fait en fait que Pharaon va rentrer dans une très grande colère par rapport aux Juifs, et ils vont être asservis. Pharaon va chercher tout d'abord à tuer les premiers-nés. Mais les sages-femmes avaient la crainte de l'Éternel, ce qui fait qu'elles n'obéissaient pas aux ordres de Pharaon. Et donc après, il va chercher plein de stratagèmes pour arrêter la puissance et la fécondité des Juifs. Et en fait, comme il n'y arrive pas, mais il s'est dit: je vais asservir encore plus le peuple, je vais leur donner une charge encore plus lourde. Et donc Pharaon passait son temps à vraiment endurcir la tâche des Juifs, à rendre le travail difficile, à les faire suer, à avoir un dur labeur. Et Dieu, en fait, avait promis à Abraham donc cette grande nation. Et il avait déjà déclaré, en fait, depuis l'époque d'Abraham, qu'il serait 400 ans en Égypte, mais qu'un jour Dieu leur donnerait le pays de Canaan. Donc c'était une promesse qui a été depuis tout temps posée sur Israël et sur les Juifs. Et en fait, donc quand, et même pour Jacob, en fait, à Jacob, Dieu il va lui dire ben, que tu dois aller en Égypte, que je serai avec toi en Égypte et que je te ferai sortir de l'Égypte. Donc c'était quelque chose qui était promis par l'Éternel. Mais il y avait cette colère qui s'emparait dans Pharaon et qui voulait vraiment tuer tous les Juifs. Et en tout cas, les asservir pour les arrêter, pour stopper cette puissance. Et donc, on le sait tous, en fait, que, ben, étant donné, Dieu va dire qu'il a entendu les cris de son peuple et donc il va envoyer Moïse pour vraiment les délivrer de la main des Égyptiens et de les faire sortir de l'Égypte. Et donc, après, on connaît tous ben, les marches d'Israël dans le désert. Donc, on sait en fait que ça a été une marche qui a été fastidieuse, qui a été douloureuse. Il y a eu des temps de rébellion. Ils avaient aussi leurs habitudes de l'Égypte qui trimbalaient pendant cette marche dans le désert quand ils ont fait le veau d'or. C'est tout simplement des habitudes en fait qu'ils avaient et qu'ils avaient vues auprès des Égyptiens. La manière de louer les dieux, ben, ils reproduisaient ces mêmes choses. Et donc, il y avait aussi ces temps de rébellion par rapport à Moïse, d'avoir la certitude que Moïse faisait bien les choses. Il y avait les murmures, ils n'étaient pas contents de la manne qu'ils avaient dans le désert. Il y a toute une multitude de choses qui nous sont comme ça retranscrites dans la Bible sur le comportement du peuple. Mais comme Sandy en fait l'avait rappelé la dernière fois, c'est que quand bien même ils étaient ben, donc dans le désert, quand bien même quand Moïse a dû envoyer 12 espions et que ben, les espions, et ben, ils n'ont pas tous retranscrit la bonne version de ce qu'ils avaient vu et que Dieu a sanctionné par 40 ans de désert, et ben Dieu était avec eux dans le désert. Mais ça n'empêche qu'ils faisaient pas toujours les choses ben très bien. Il y avait tous ces murmures, ces idolâtries, toutes leurs habitudes de l'Égypte. Ils avaient ces moments de rébellion, etc. Mais Dieu était avec eux. Mais c'était, ben, il y avait cette ambivalence d'un Dieu qui était fort, d'un Dieu miraculeux, mais il y avait ben, tout ce qui se passait dans leur cœur, toutes ces habitudes, toute cette désobéissance aussi qui traînait avec eux. Et à un temps donné, ben, quand Josué va être le successeur de Moïse, il va dire « Go, maintenant vous pouvez rentrer ». Dans la terre promise. Donc ils vont passer le Jourdain, et ce qui va se passer dans le Jourdain quand les eaux, le fleuve va s'arrêter, c'est pour montrer bah voilà, la légitimité de Josué par rapport au peuple, que désormais c'est bel et bien Josué qui est le successeur de Moïse. Mais arrivés donc enfin dans la terre promise, eh bien là, alors qu'ils sont arrivés en terre promise, ils portent encore l'opprobre de l'Égypte. Et c'est sur ça que je vous interpellais ce matin. Parce qu'en fait, ils sont arrivés dans cette terre promise, et pourtant, l'opprobre, donc si je veux donner un synonyme de l'opprobre, ça peut être la disgrâce, la honte, le déshonneur. Et ils portaient tout ça en eux. Ils étaient enfin, bel et bien, arrivés en terre promise. Mais ils portaient toute l'opprobre de l'Égypte, tout cet esclavage, le dur labeur, tout ce qu'ils avaient enduré pendant le désert. Le désert, la transition entre le temps où ils étaient en Égypte et le temps où ils pouvaient enfin être en terre promise et arriver en terre promise. Eh ben, ils portaient tout ce bagage-là de leur vie, en fait, et des générations passées. Donc oui, il y avait la réalisation de la promesse, mais il y avait la honte. Ils avaient vu la réalisation de grands miracles, encore par la traversée du Jourdain, mais il y avait la honte et l'opprobre sur eux. Et Dieu, donc à Gilgal, en fait, on va nommer ce lieu Gilgal parce que ça veut dire le fait de rouler, de ôter et de jeter loin quelque chose. Et donc là, Dieu, eh ben, il sait pertinemment que bien qu'il soit rentré dans la terre promise, il doit d'abord faire les circoncire pour refaire cette marque avec eux de l'alliance qu'il a faite avec Israël, mais il doit aussi ôter l'opprobre de leur vie. Et donc c'est pour ça que Dieu dit à Josué, maintenant j'ai ôté l'opprobre et j'ai roulé loin de vous cette opprobre, cette honte que vous avez ramenée d'Égypte, cette honte que vous avez depuis l'Égypte. Et donc, j'ai fait forcément un parallèle entre ben, le peuple d'Israël et nous, en fait, par rapport au fait d'arriver en terre promise. Et finalement, on va pas se voiler la face, on a tous à un moment donné dans notre vie ce temps d'Égypte, ce temps d'esclavage par rapport à des péchés, ce temps de servitude, ce temps où voilà notre vie n'était pas en règle avec Dieu. Et peut-être que même ce matin, bah, vous avez une partie de votre vie qui est en règle avec Dieu et une partie de votre vie et de votre cœur qui est encore un peu dans votre Égypte à vous. Donc on a tous quelque part notre Égypte, on sait tous ce que c'est d'être sous l'esclavage et la servitude de quelque chose. On a tous aussi nos moments de désert, les moments comme ça de transition dans nos vies où Dieu nous touche, Dieu va nous emmener d'un endroit à un autre. Et en fait, ben, on est vraiment dans une phase de désert. Et c'est, on porte, ben, on a les difficultés, on a des épreuves, on a des transitions de notre vie. Et on a aussi ben, notre terre promise. Et finalement, ce matin, j'ai comparé notre terre promise par rapport au moment où on rencontre Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, parce que c'est la plus grande promesse éternelle pour nos vies, de rencontrer le salut, d'avoir le salut dans nos vies, d'avoir Jésus-Christ dans nos vies. Et donc, on a ces temps d'Égypte, ces temps de désert et ces temps de promesse où on rentre dans les choses de Dieu, on rentre, ben, on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on sait qu'on est pardonné de nos péchés. Mais en fait, on est pardonné de nos péchés, on va rentrer dans notre nouvelle identité. Mais on porte toujours la honte de notre passé, on porte toujours la disgrâce de notre passé, on porte toujours l'opprobre de notre passé. Parce qu'en fait, on est là, on a accepté Jésus dans notre vie, on est sauvé, on sait qu'on a le salut pour nos âmes, mais par contre, on sent toujours dans notre cœur la honte de notre passé, la honte de nos mauvais choix, la honte de nos mauvaises décisions, la honte de nos mauvais comportements. Et en fait, parfois, on a un débat avec nous-mêmes sur cette honte qu'on peut ressentir dans nos cœurs. Et ce qui fait qu'on est dans un état de culpabilité, parce qu'en fait, on se dit, ben, et on n'arrive même pas à comprendre à quel point Jésus peut nous pardonner, parce qu'on est là dans notre intellect, on sait que Jésus nous pardonne, on a pris notre baptême, on sait qu'on est sauvé, mais par contre, on se débat dans nos cœurs avec ce sentiment de honte qui peut encore faire rage dans nos cœurs. Et on a même peut-être vécu déjà des miracles, des guérisons, etc. Mais il y a des temps donnés comme ça, ben hop, le sentiment de honte revient. Et on a c'est les murmures en disant, mais tu te rappelles quand même ce que tu faisais avant? Tu te rappelles la mauvaise décision que tu as faite à ce moment-là? Tu te rappelles ton passé? Et d'un coup, on se sent plus en fait digne d'avoir ce que Dieu peut nous donner. On se sent plus dans l'honneur et dans la dignité de ce que Dieu veut nous donner. Et quelque part, il nous arrive même de s'habituer à cette honte qui est venue faire son ancrage dans nos cœurs. Ça est venu faire vraiment un sillon de honte. Notre cœur, parfois, va vraiment porter une marque et une empreinte de la honte. Et on s'est habitué à vivre avec cette honte. Notre cœur est dans cette ambivalence en disant « Oui, je suis pardonné. Oui, je suis justifié. » Mais parfois, quelques secondes après ou quelques jours après, eh ben, on peut marcher dans la honte de notre passé, la honte des mauvais choix, la honte des mauvaises décisions. Et parfois, ça peut être aussi la honte de nos choix personnels, mais ça peut être aussi la honte des choix. Parfois, on va porter l'opprobre, on a la compassion pour d'autres personnes, pour les gens de nos familles ou pour des amis proches. Et en fait, on va parfois même porter l'opprobre de nos familles, l'opprobre ben, des générations anciennes. On va porter l'opprobre de nos amis qui ne marchent pas ben, peut-être comme ils devraient. Et peut parfois, ça crée même une honte en nous, en fait. Et on va porter non seulement parfois notre honte personnelle, mais la honte des générations passées, des mauvais choix du fait qu'on peut avoir des générations passées qui étaient en Égypte, du fait d'avoir un mari qui est en Égypte, d'avoir une épouse qui est en Égypte, d'avoir un ami qui est en Égypte. Et on a honte parce qu'on se dit, ben, où est Dieu dans tout ça? Et c'était aussi l'opprobre qu'Israël portait. C'était l'opprobre de... Parfois, en fait, même Moïse dira à l'Éternel, mais si tu nous fais pas rentrer dans cette terre promise, bah, que diront les autres peuples? Que diront les autres peuples du désert qu'on a traversé? Alors, que dirons-nous si mon époux ou mon épouse est comme ça? Que dirons-nous si mon ami est comme ça? Et on porte cette honte en nous. Mais le fait est, c'est qu'on se rend même pas compte, mais c'est que la honte a des énormes conséquences dans nos vies. Et donc là, je voudrais à un moment donné prendre un instant de parler ben justement des conséquences de la honte dans nos vies. Et la honte va avoir des conséquences dans nos émotions. On va ressentir de la gêne, on va ressentir des malaises, on va ressentir de la colère, de l'agressivité, de la domination, parce que c'est toutes les conséquences de la honte, il faut la cacher, parfois on essaie de la cacher, donc ça va être, on va avoir un sentiment de domination, on veut montrer autre chose de nous, on va avoir de la colère en nous, parce que la honte, ça nous rend colérique, on n'est pas satisfait de nous-mêmes, on n'est pas satisfait de notre passé, on n'est pas satisfait de ce qu'on a pu faire. un sentiment de gêne par rapport à autrui, par rapport à peut-être on pense que ben des gens ont fait moins pire dans leur vie, ont pas eu un temps aussi grand que moi d'esclavage, ils ont fait peut-être que même quand je vous parle, vous dites, mais si tu savais, Elisabeth, moi, ce que j'ai pu faire dans ma vie, tu ne réalises même pas le péché dans lequel j'étais. Mais, et donc, vous avez une gêne par rapport à ça. Il y a aussi des conséquences corporelles quand on a honte. Quand on a honte, ben, on baisse les yeux. Quand on a honte, on baisse la tête. Quand on a honte, on rougit. Et parfois, on fait la même chose avec Dieu. En fait, on vient dans sa présence et on est là, on parle de bonnes choses, on parle de promesses, mais il y a toujours cette honte qui est en nous. Et plutôt que d'arriver dans la présence de Dieu en étant sûr de la grâce que Dieu nous a faite, ben en fait, on arrive dans la présence de Dieu et en fait, on est comme ça, on regarde à terre. On ne sait même pas lever les yeux comme ça. On ne sait pas regarder vers l'Éternel parce qu'on est écrasé par le poids de la honte qui est dans nos cœurs. Il y a des conséquences aussi qui sont intérieures sur le fait qu'on va avoir des discours où on va se dévaloriser. Parfois, on n'a pas besoin d'autres personnes pour se dévaloriser, mais on sait se dévaloriser tout seul. Hein. C'est « ouais, je suis vraiment nulle hein. ». Et là, franchement, j'ai vraiment raté ça de ma vie. Je suis vraiment qu'un moins que rien, je ne vaux rien. Tout ce discours intérieur qu'on est capable, où ça se crée automatiquement. La honte va forcément créer un discours intérieur où on va vraiment se faire du mal. On va même parfois se flageller par rapport à ça. On va se dire, mais je suis qu'une moins que rien. Je suis vraiment ridicule. Je suis honteuse d'être comme ça. Comment je peux m'accepter? Et ce discours-là s'enclenche. Ça s'enclenche et ça revient tout le temps dans nos têtes. Ou alors, on va également avoir des temps où on va être complètement paralysé par la honte. Dieu, il peut très bien vous demander de faire quelque chose, mais vous dites, mais je ne suis pas digne de faire ce que Dieu me demande. Je ne suis pas digne peut-être d'apporter la parole. Je ne suis pas digne d'aller au groupe d'intercession. Je ne suis pas digne d'aller voir des gens qui sont malades. Je ne suis pas digne de m'investir dans l'œuvre de l'Église. Parce que ben, vous êtes complètement inhibé par cette honte qui est en vous. Vous êtes complètement paralysé. Parfois, on est complètement paralysé par quelque chose qu'on a fait dans nos vies. Et Dieu, il est là, il attend, comme pour le peuple d'Israël, pour entrer dans cette terre promise, pour entrer dans les promesses de Dieu. Il attend, mais nous, on est là paralysés. Et on se dit que c'est impossible pour nous, que ce n'est pas pour nous, que ce ne sera jamais pour nous de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nos vies. Résultat, on se retrouve, alors peut-être avec le salut, mais on se retrouve à être distants les uns des autres parce qu'on a cette honte en nous qui crée cette souffrance qui est tellement énorme qu'on est distant, qu'on ne veut pas montrer en fait l'état de notre cœur. On va aussi avoir des problèmes relationnels parce qu'on n'arrive pas à avoir on n'est pas équilibré dans notre propre cœur, on ne se sent pas bien, ce qui fait qu'on ne sait pas être bien avec les autres. On se cache ou on peut avoir de la froideur parce qu'on ne veut certainement pas que les autres voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre cœur, qu'on ne se sent pas bien. Et on ne veut pas raconter notre passé, on ne veut pas dire pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien aujourd'hui. Et parfois, on peut être aussi dans des états d'excès, d'ambition. On va être dans l'excès des choses ou on va vouloir créer de grandes ambitions pour cacher notre Dieu qui est notre Père, celui qui crie en moi, mon esprit crie en moi, « Abba Père ». Mais on a honte d'aller devant notre Dieu parce qu'on est oppressé par ce sentiment de gêne, par ce sentiment de déshonneur qui règne en nous. Et vous savez, quand j'écrivais cette prédication et dans la nuit de vendredi à samedi, en fait, j'ai rêvé ce moment-là du dimanche. D'un coup, je me voyais à dimanche, etc. Et d'un coup, je suis sortie de mon sommeil. Et en fait, les seuls mots qui me sont venus, mais c'est comme si mon cœur soupirait devant l'Éternel, mon cœur criait à Dieu par rapport à les mots qui me venaient à la bouche. Et c'était des cœurs qui sont brisés par la honte. Et je sais que ce matin, on a tous, on a nos beaux visages, on est là comme ça, assis. Mais je sais et j'ai la certitude que ce matin, il y a des cœurs qui sont brisés, complètement brisés par la honte et par la gêne que vous éprouvez par rapport à votre passé, par rapport aux mauvais choix que vous avez pu faire. Et ce matin, Dieu, eh ben, il veut vous délivrer de cette honte. Il veut faire comme il a fait pour le peuple d'Israël. Il veut ôter l'opprobre que vous portez de vos cœurs. Il veut le jeter au loin. Il veut rouler. Il veut complètement ôter, enlever l'opprobre que vous avez dans votre cœur. Et je sais que ce matin, il y a des cœurs qui sont complètement brisés par rapport à ça. Et ce matin, Dieu, il veut vous consoler. Il veut vous guérir. Et il veut ôter l'opprobre de vos cœurs. Le fait est, c'est que on a aussi une position à prendre ce matin par rapport à la honte, par rapport à la gêne, par rapport au déshonneur que nous pouvons encore éprouver. Et donc, la première chose qu'il faut se dire ce matin, c'est d'avoir la certitude que c'est pour toi ce matin, d'avoir la certitude que Dieu va ôter l'opprobre de ton cœur. Parce que moi, je peux te parler de ça, mais si tu n'en es pas convaincu, dans ce cas-là, tu resteras dans cette opprobre-là. Et ce matin, Dieu, il te demande de faire déjà ce premier pas dans ton âme, dans ton cœur. Cette première décision, c'est de croire que ce matin, il va enlever l'opprobre de ton cœur comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Et comme je le disais tout à l'heure, je sais qu'il y a des personnes, vous dites ce matin, mais mon opprobre, elle est bien trop grande, tu n'imagines même pas ce que j'ai fait. Et là, dans ce cas-là, je veux ordonner à vos pensées d'arrêter de penser comme ça et vous devez ordonner à votre âme d'arrêter de vous dire ces mensonges. Parce que j'ai envie de vous poser la question ce matin, vous pensez que Jésus est venu pour qui? Vous pensez qu'il est venu pour ceux qui étaient déjà justes? Mais il est venu pour nous qui étions pécheurs, nous qui étions dans nos péchés. Et vous pensez qu'il ne savait pas quelles toutes sortes de péchés dans lesquels on pouvait tomber? Vous croyez qu'il est pris au dépourvu de savoir qu'il y a tous ces péchés qui nous environnent? La grandeur des péchés, mais Jésus, il le savait, il savait très bien pourquoi il se livrait. Il savait très bien que c'était pour ôter tout le péché du monde. C'était pas pour tel ou tel péché ou un péché. Parfois, on aime bien classifier les péchés. Alors, celui-là, il est plus grand parce que ça fait ça et celui-là, il est plutôt petit. Mais il n'y a pas de classification en Dieu. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Et c'est n'importe quel péché. Alors ce matin, tu peux te dire intérieurement que tu as fait telle ou telle chose, mais Jésus est plus grand que ton péché et Jésus est plus grand que la honte et l'opprobre que tu éprouves par rapport à ça. Et on va prendre Romains 5, versets 1 et 2, où là, en fait, c'est Paul qui parle de la justification. Et Paul, il dit ceci, il fait « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Et donc, je voudrais attirer votre attention quand Paul dit « d'avoir par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Donc, la première décision, c'est de dire que c'est pour toi cette grâce, que c'est pour toi ce matin, Dieu va rouler l'opprobre qu'il y a dans ton cœur. La deuxième décision que tu dois prendre ce matin, c'est de demeurer ferme dans la grâce que tu as par le sacrifice de Jésus qui est mort et ressuscité pour ta vie. C'est de demeurer ferme constamment dans cette grâce. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Si on ne demeure pas ferme dans la grâce, alors tu vas automatiquement sous les mensonges de l'ennemi. Et l'ennemi, il demande que ça, à ce que tu sois esclavage, non seulement de tes péchés, mais que tu sois esclavage de la honte que tu portes. Parce que lui, l'ennemi, comme ça a été dit il y a deux semaines, il veut qu'on soit cette joie qu'on pourra avoir dans l'éternel, que ça nous soit volé. Il veut venir t'égorger, te voler, te tuer. Il veut tuer la joie que tu peux avoir dans l'éternel. Il veut tuer la vie que tu peux avoir dans l'éternel. Alors si tu ne fais pas le choix de marcher fermement dans cette grâce, tu te retrouves automatiquement sous le camp de l'ennemi dans tes pensées. Et sur le fait que tu seras toujours sous le joug de cette honte que l'ennemi veut s'acharner à mettre dans nos cœurs. Mais le fait est, c'est que ça doit être une responsabilité dans nos cœurs, dans nos pensées. C'est des décisions, des états de cœur et des positions à prendre. De croire que c'est pour nous et de se dire que nous allons demeurer fermes dans cette grâce. Et je vais vous inviter aussi à prendre Luc, chapitre 15, versets 20 à 24. Et donc là, c'est par rapport au fils prodigue. Donc vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue. Donc il va demander à son père son héritage, il va lapider cet héritage, il va en faire n'importe quoi. Et d'un coup, il va avoir envie de retourner vers son père. Et donc là, il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Et au verset 24, c'est dit, « Donc car mon fils que voici était mort. » Et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Et ce matin, Dieu, il veut nous revêtir de cette plus belle robe. Le Père a donné à ce fils qui était parti, qui avait fait n'importe quoi avec son héritage et qui est revenu vers son Père, il lui a donné la plus belle robe. Il lui a pas donné la robe qui traînait comme ça, peut-être un peu entachée, etc. Il lui a donné la plus belle robe. Et ce matin, tu dois croire que Dieu veut te donner la plus belle robe. Alors peut-être que pour les filles, c'est plus facile à s'imaginer la robe. Et alors pour les garçons, je vous propose de prendre le manteau, le plus beau manteau que vous pourriez avoir. Et la honte, Dieu non seulement il l'enlève de nos cœurs, mais il ne laisse pas notre cœur à l'état vide. Dieu, il veut nous mettre la dignité, l'honneur, et la faveur. Et c'est cette robe-là que ce matin, Dieu veut que tu portes devant lui. C'est une robe d'honneur ou un manteau d'honneur, un manteau de grâce ou une robe de grâce, un manteau de faveur ou une robe de faveur. Amen. Et vous savez, il y a aussi parfois un piège que l'ennemi met dans nos vies, c'est que, donc comme on le disait tout à l'heure, parfois on va porter donc, la honte par rapport à ce qui se passe autour de nous, la honte dans nos vies. Et c'est vrai que il y a des temps où Dieu va nous corriger. Et je pense qu'on est déjà tous passés par des temps de correction de la part de Dieu. Et c'est vrai que parfois ça fait mal quand même de se faire reprendre par Dieu. Et en fait, la Bible dit, donc c'est dans Hébreux, c'est chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alors selon les différentes traductions, châtiment, ça peut être remplacé par correction en fait de la part de Dieu. Et il y a un piège en fait dans lequel parfois l'ennemi vient et nous fait tomber, c'est que Dieu va nous corriger. Donc c'est vrai que quand Dieu nous reprend, parfois ça adouille, hein, ça fait mal quand même dans nos cœurs. Et le souci, en fait, c'est que donc il y a ce temps de douleur, mais en fait, l'ennemi nous fait croire que plus ce temps de douleur sera long, plus ce temps en fait qui est long de douleur, il va l'assimiler à plus le pardon de Dieu sera grand, et plus ça veut dire que tu as conscience en fait de ce que tu as fait. Mais en fait, c'est faux, parce que le pardon de Jésus, ça réside et ça résidera toujours dans le fait que Jésus-Christ s'est donné pour nos vies. Alors après, il n'y a pas de question de durée, et parfois on en fait même une religion, j'ai fait ça, et on s'accable, et on pense que plus on s'accable, plus on a conscience de ce qu'on a fait. Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir conscience et de se rappeler ce qu'on a fait, parce que ça va borner notre chemin avec Dieu. On va se rappeler de nos erreurs pour ne plus recommencer et pour borner notre chemin et ne plus tomber, pour marcher droit et que nos genoux soient bien droits, que nos jambes soient bien droites devant l'Éternel. Mais ça n'empêche que cette honte que tu peux ressentir au temps où tu es repris par l'Éternel et cette douleur, elle ne dure qu'un temps. Et après, tu dois avoir la joie d'être justifié et la joie d'être en paix avec ton Sauveur, ton Seigneur et ton Père. Et l'ennemi, il vient nous donner ce mensonge dans nos cœurs qu'on doit toujours porter ce temps de douleur. On doit toujours porter ce temps de honte et la douleur qui va avec. Et ce matin, Dieu veut te dire que c'est faux. Il y a un temps pour la douleur, mais il y a un temps où ça va être un fruit paisible de justice en toi. Et donc, quand on reprend Luc, Donc au verset 24, il est dit, ils commencèrent à se réjouir. Donc il y a un temps pour pleurer, pour se remettre droit devant Dieu, pleurer pour nos péchés, pleurer pour ces temps d'esclavage, pour ces temps de servitude. Mais il y a un temps où quand Dieu nous donne cette nouvelle robe, ce nouveau manteau, il y a un temps pour se réjouir et pour porter ce fruit où tu vas être, ça va être un fruit paisible de justice, où tu es justifié et où tu as la paix avec l'Éternel. Il doit y avoir la paix et la joie quand on marche avec Dieu. Il y a un temps pour être repris, il y a un temps d'esclavage, il y a un temps de délivrance. Et la délivrance va venir procurer de la joie. Et ce matin, et je finirai par là, Dieu te demande de faire ce choix-là. Donc ce choix-là, de croire que ce qu'il a fait pour Israël, il le fait ce matin pour toi. De croire que tu peux demeurer ferme dans la grâce et tu dois prendre position de demeurer ferme dans la grâce de Dieu. Et tu dois te laisser revêtir de cette robe ou de ce manteau d'allégresse, de ce manteau de faveur, de ce manteau d'honneur, de ce manteau de dignité. Et Dieu, ce matin, il veut donner de la dignité, de l'honneur, de la faveur. Dieu, il est en faveur devant nous, il a de la faveur pour nos vies. Quand Israël a été circoncis à nouveau, il a enlevé l'opprobre. Il y a eu de nouveau cette alliance qui a été répétée. Et quand, malgré l'état de nos vies, l'état passé de nos vies, ou même parfois certaines décisions qu'on peut prendre et qui sont parfois peut-être un peu borderline, et Dieu va nous reprendre dans notre marche avec lui, eh bien Dieu, on a sa faveur, on a son honneur, on a sa dignité. Dieu, il nous fait l'honneur d'être là ce matin. Il nous fait l'honneur de régner dans nos vies. Il nous a fait l'honneur de nous donner Jésus-Christ. Lui qui n'avait rien d'imparfait en lui, aucun péché en lui. Il a été livré, parfois, dans Isaïe, je crois aussi, c'est dit, il a été livré à l'abattoir, comme on mène une bête à l'abattoir. Et ça, si ça, ce n'est pas la faveur pour ta vie, si ce n'est pas l'honneur pour ta vie, si ce n'est pas la dignité pour ta vie, on doit prendre conscience ce matin de l'honneur que Dieu nous donne, de la grâce que Dieu nous donne dans notre marche avec lui, de la dignité qu'il donne. Et donc il veut consoler, guérir et rendre l'honneur que nous avions perdu, comme Israël avait perdu l'honneur. Ils ont retrouvé l'honneur par la circoncision et par l'opprobre qui a été jeté au loin. Et je vais vous lire un passage en fait que j'avais imprimé quand j'étais jeune, et c'est Ésaïe 12. Et en fait, je trouve que les coïncidences sont marrantes quand même. Dieu, il est assez marrant, parce qu'en fait, j'étais chez moi et je cherchais un cahier dans lequel j'avais écrit beaucoup de choses à un temps donné de ma vie. Et c'était un temps donné en fait où j'avais pris des mauvaises décisions dans ma vie, ce qui fait que je savais que j'avais rectifié le tir, j'avais refait, j'avais remis ma vie en règle avec Dieu. Et en fait, je me souviens que je savais que Dieu me pardonnait, mais je ne me pardonnais pas à moi-même et je portais encore la honte de mes mauvais choix. Et je me rappelle que j'étais tombée sur ce passage-là, et sur Ésaïe 12, et c'était un temps où je pleurais devant l'Éternel. « Oh Seigneur, tu te rends compte ce que j'ai fait, et je sais que tu me pardonnes, mais quand même tu te rends compte ce que le mauvais choix que j'ai fait et ce que ça a créé dans ma vie ?» Et donc je suis retombée sur ce passage-là et je l'avais placardé sur mon mur quand j'étais jeune. Et c'était « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolée. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvée. » Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et ce matin, Dieu, il veut nous dire qu'il est grand au milieu de nous. Et il veut que l'on pousse des cris de joie et des cris d'allégresse. Alors je vais demander au groupe de louanges de revenir. Et je vais vraiment prendre un temps de prière. parce que je sais que ce matin, il y a des cœurs brisés par rapport à la honte et vous avez besoin de recevoir la consolation, la guérison, et de votre cœur va sortir des cris de joie et des cris d'allégresse. Alors je vais faire cet appel-là, tout simplement pour ceux où vous avez encore un combat avec cette honte que vous portez, la honte pour votre propre vie ou la honte de vos pères, des générations passées, c'est un combat en vous. Et votre vie, elle est complètement brisée, votre cœur est complètement brisé par rapport à cette honte que vous éprouvez. Eh bien, ce matin, je vous demande de vous avancer parce que Dieu va vous délivrer de cette honte, il va vous délivrer de cet opprobre, il va ôter tout ça et il va mettre l'allégresse, la joie et vous allez ressortir de ce temps de culte avec de la joie dans votre cœur. Et tout ça, ce sera plus qu'un mauvais passé, ce sera plus que des mauvaises choses, mais vous ressentirez plus cette honte que vous étiez en train d'éprouver et qui vous faisait souffrir. Amen. Donc je vais vous demander, pour les personnes qui se sentent concernées, et je vais demander aussi aux conseillers si vous pouvez vous avancer, et donc je vais vraiment prendre ce temps de prière parce que je suis convaincue que ce matin, c'est encore une matinée de délivrance. Amen.